Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi. Nous sommes le 14 janvier. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, et son adjointe déléguée à l'emploi, Camille Auger, vont officialiser aujourd'hui la liste des candidats retenus pour occuper l'une des 55 cellules des Halles de Lyon. Dans l'actualité également, des tags menaçants découverts sur un futur centre d'hébergement d'urgence, boulevard Ifarge à Gerland. Parmi les tags, Doucet, au moindre problème, ta vie, tu la risqueras. Le maire de Lyon a décidé de porter plainte. La circulation en interfil des 2 et 3 roues motorisées, désormais autorisée et encadrée par le code de la route sur tout le territoire français, y compris dans le Rhône où l'expérimentation avait eu lieu. Rieux-la-Pape expérimente l'uniforme dans 2 écoles maternelles. L'abbé Pierre visé par 9 nouvelles accusations de violences sexuelles. Et puis nous parlerons également des difficultés de Sébastien Bouillet qui a décidé de placer en sauvegarde son entreprise. Le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de cette procédure le 8 janvier.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Grégory Doucet, le maire de Lyon, et son adjointe déléguée à l'emploi et à l'économie durable, Camille Auger, vont officialiser ce mardi la liste des candidats retenus pour occuper l'un des 55 emplacements des Halles de Lyon. Une nouvelle disposition légale impose en effet à la ville, propriétaire du site, une procédure de mise en concurrence des concessions des commerçants. Ces concessions arrivent à échéance fin 2025. Pour les candidats retenus, une convention d'occupation temporaire du domaine public d'une durée de 10 ans et 6 mois sera signé avec la ville. Cette convention entrera en vigueur le 1er février 2026. Déménagement et emménagement devront donc s'effectuer durant le mois de janvier 2026. Le jury est composé d'un comité transpartisan du bureau des Halles Paul Bocuse, de la chambre de commerce et de la chambre des métiers. L'équilibre actuel des activités entre écaillers, fromagers, boulangers, bouchers et autres poissonniers, traiteurs, cavistes ou restaurateurs doit être respecté. Le cahier des charges indique également qu'il faut être capable de promouvoir la gastronomie et la scène culinaire lyonnaise dans le respect de la saisonnalité des produits et des engagements environnementaux promus par la ville. Des tags menaçants ont été découverts sur un futur centre d'hébergement d'urgence, boulevard Ifarge à Gerland. Parmi les tags, Doucet, au moindre problème, ta vie, tu la risqueras. Des tags inacceptables, selon la préfecture du Rhône, qui, dans un post sur les réseaux sociaux, rappelle que le respect de l'esprit républicain et la protection des élus sont les priorités de l'État. Ces messages de haine sont une atteinte au principe de solidarité et de tolérance qui forge notre pacte républicain, a réagi Grégory Doucet. Le maire écologiste de Lyon a annoncé qu'il allait déposer plainte. Le centre hébergeait autrefois des personnes handicapées. Il accueillera des jeunes isolés en recours de minorité, dont ceux dormant à la rue actuellement dans le froid au Square Béguin, dans le 7e. Le transfert est prévu dans quelques jours. La circulation en interfil des 2 ou 3 roues motorisées est désormais autorisée et encadrée par le code de la route sur tout le territoire français, et ce après plusieurs années d'expérimentation et d'évaluation dans plusieurs départements, dont le Rhône. La circulation en interfile consiste à circuler entre les voies les plus à gauche lorsque les autres véhicules sont à l'arrêt ou roulent à vitesse très réduite. En interfile, la vitesse est de 50 km/h maximum, passant à 30 km/h si l'une des files est à l'arrêt. Pour la Fédération française des motards en colère, c'est juste le bon sens qui s'impose. Le motard ne reste jamais coincé entre les voitures dans les embouteillages. À Lyon, l'expérimentation de la circulation en interfile a été menée en même temps que la mise en place des voies de covoiturage sur la M6 et la M7. La métropole de Lyon s'est engagée à ce que les 2 ou 3 roues motorisées puissent circuler sans condition de passagers dans les voies de covoiturage, dans les conditions autorisant la circulation interfile.
Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Rieux-la-Pape expérimente l'uniforme dans 2 écoles maternelles. Dans ces 2 écoles, les élèves vont revêtir le même polo ou t-shirt floqué du blason de la ville et du nom de l'école. L'idée d'expérimenter une tenue commune à tous les élèves a été lancée par le ministère de l'Éducation nationale en 2023. Aide financière à l'appui pour les collectivités. Ainsi, le kit fourni est gratuit. Si un deuxième est demandé par la famille, elle devra l'acheter. Un kit composé de 4 t-shirts manches courtes, 2 polos Polo Manche Longue et de suite, deux écoles ont accepté de mener l'expérimentation jusqu'à la fin de l'année scolaire. À Rieux-Village, Paul Chevalier, et dans la ville nouvelle, Les Charmilles, en REP+. Un bilan sera tiré de cette expérimentation avant le mois de juin. S'il est positif, la tenue unique sera généralisée aux autres écoles de la ville. L'abbé Pierre est visé par 9 nouvelles accusations de violences sexuelles, dont un viol sur mineur et des faits concernant des membres de sa famille, selon un rapport du cabinet spécialisé EGAE publié lundi, ce qui porte à 33 le nombre de témoignages visant le prêtre décédé en 2007. Un témoignage fait état d'un acte sexuel avec pénétration sur un garçon mineur. Les personnes qui témoignent vont de la salariée d'un hôtel dans lequel séjournait l'abbé Pierre aux soignantes travaillant dans les hôpitaux où il était hospitalisé. Il s'agit du 3e rapport du cabinet mandaté par Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre pour faire la lumière sur les agissements d'Henri Grouès. En juillet 2023, la première salve de révélations basée sur 7 témoignages avait provoqué une onde de choc. L'abbé Pierre, défenseur inlassable des mal logés et des plus démunis, a longtemps fait figure d'icône. Il a été pendant de longues années, je le rappelle, la personnalité préférée des Français.
Lyon demain, planète pour tous.
Redessiner les contours de l'alimentation durable tout en offrant une seconde chance à des personnes en précarité, c'est le défi de Terre de Mille Pas, une ferme agroécologique située à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, un projet qui cultive donc des légumes, mais aussi des opportunités d'insertion professionnelle et d'égalité des chances. Un reportage de Charlélie Gouillet.
30 000 euros, c'est l'objectif que s'est donné Terre de Mille Pas pour leur campagne de financement afin de développer leurs serres et autres infrastructures. Fournissant des produits bio en circuit court et en permettant des expériences professionnelles à des personnes en recherche d'aide, l'association Désidérienne continue de pousser et joue un rôle central dans la transition vers un modèle agricole durable et inclusif. Olivia Deroubin, coordinatrice et fondatrice de Terre de Mille Pas, nous en parle.
Nous, on est une association. On s'est installé sur cette ferme en 2022 et on a créé un chantier d'insertion par maraîchage et boulangerie artisanale. Donc, c'est-à-dire qu'on accompagne des personnes très éloignées de l'emploi et sur leurs projets professionnels, leurs freins sociaux. Du mal à parler d'activité, on n'est pas sur une activité, on est aussi agriculteur, on travaille et on cultive des légumes et on vend principalement comme des AMAP sous format de panier, d'abonnement panier. Donc toutes les semaines, on vend des légumes aux habitants de Saint-Didier, au Mont-d'Or, aux cantines de la ville, mais aussi dans un centre social à QC, à Villeurbanne. Terre de Mille Pas a été pensée vraiment comme un projet très global qui repose sur 3 piliers. Le pilier social, le pilier agricole, écologique, alimentaire, et aussi le pilier d'égalité femmes-hommes. En quoi on est assez unique, c'est ce côté assez systémique. On travaille vraiment de la fourche à la fourchette. Donc on est à la fois producteur de légumes, mais aussi on accompagne des personnes dans la production et aussi on a un projet alimentaire assez fort. Notamment, un tiers de nos légumes sont vendus à un tiers du prix avec des partenariats et des personnes qui n'auraient pas les moyens d'acheter des légumes tels que ceux qu'on vend, qui sont bio, locaux, donc d'assez haute qualité. Dans le domaine de l'insertion professionnelle, vous avez plein de structures différentes. On peut accompagner des personnes avec un travail de menuiserie, de chantier. Voilà. Nous, on accompagne avec le travail de la terre. C'est pas forcément des personnes qui vont vouloir aller travailler dans l'agriculture, mais ce que je trouve très intéressant quand même, avec le travail de la terre, il y a vraiment quelque chose qui se passe, une connexion. Et puis un travail aussi qui a énormément de sens. Enfin, quand vous plantez une graine et que vous envoyez pousser le légume quelques temps après, que vous êtes en contact avec les personnes qui mangent vos légumes, il y a vraiment un travail qui a énormément de sens, mais que partagent tous les agriculteurs. Ce qui est quand même un métier magnifique, qui est de nourrir les êtres humains.
Quel est l'impact d'un projet comme ça à l'échelle locale ?
On est sur un territoire où il y a énormément de productions agricoles qui partent à l'extérieur du territoire de la métropole et à l'inverse, choses qui viennent de l'extérieur, donc de relocaliser. On est un des acteurs parmi bien d'autres, hein, évidemment, locaux qui produisons et vendons des légumes en circuit court. Et puis après, évidemment, tout le travail social qu'on fait, donc on est un acteur économique et on est aussi un acteur écologique. Dans le sens où on fait pas mal de choses pour améliorer la biodiversité, on a installé deux mares, créé des haies. Et donc, encore une fois, c'est un projet assez global, mais qui a des impacts très directs pour les habitants. Acheter des légumes, avoir un paysage préservé, permettre à la biodiversité d'être là, puis aussi accompagner des personnes vers le travail.
Vous avez lancé une campagne de financement pour plusieurs ambitions. Quelles sont-elles ?
Alors on est encore à un tout jeune projet, donc on s'est installé sur cette ferme en 2022, mais on n'a pas pu cultiver les terres alentours. En fait, on a vraiment commencé l'atelier chantier d'insertion en 2023, donc on est à 2 années d'existence. Donc on transforme des prairies en salades, comme je dis souvent. Ça veut dire derrière préparer les sols, installer des serres. L'année dernière, on a installé 3 serres et l'objectif c'était d'installer 2 nouvelles serres et d'augmenter les planches de maraîchage. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a plus de demandes que d'offres. Actuellement, on met des personnes sur liste d'attente pour bénéficier des paniers. Et c'est parce qu'en fait, on n'a pas assez de planches de légumes. Donc 2025, ça va être encore une année vraiment très charnière d'installation de nouvelles planches pour produire davantage de légumes, accompagner davantage de personnes en insertion et vendre davantage de légumes.
Et donc, pour concrétiser tout ça, il y a la campagne de financement et l'objectif de récolter 30 000 euros.
C'est ça. En fait, c'est des systèmes après de cofinancement. Et là, on se disait 30 000 euros, ça nous permettrait de financer une partie de cet investissement qui est à la fois un investissement matériel, mais aussi un investissement humain.
L'association compte aujourd'hui 200 adhérents avec des bénévoles qui œuvrent grandement à son bon fonctionnement. Il y a également 5 salariés permanents et une équipe en insertion de 12 personnes. Tout ce beau monde pour fournir une centaine de paniers 2 fois par semaine, comme nous l'explique Marie Thibault, encadrante technique d'insertion.
On fait des légumes en maraîchage biologique diversifié, donc c'est seulement des produits bio. Il va y avoir tous les légumes de saison. Pour vous donner des exemples, il y a des carottes, des betteraves, des navets, de l'ail, des radis, des pommes de terre, des tomates, des concombres, des aubergines. Bon, voilà, il y a tout. On n'est pas spécialisé sur des cultures. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maraîchers qui font de la monoculture aussi en maraîchage, où il y aura beaucoup de pommes de terre, de l'ail, de la carotte, des oignons. Nous, on fait tout en panier. Donc on récolte le jour pour faire le panier qui sera distribué le soir. Et à ce moment-là, on met dans des paniers avec une composition qui varie toutes les semaines, avec des légumes de saison, où on essaye de varier, qu'il y ait au moins 4 légumes différents, et puis des choses plus de conservation, des pommes de terre, des carottes, des choses plus fraîches pour faire des salades. Et on fait parfois de la transformation en été, donc on va avoir des sauces tomates, des gazpacho, et voilà, ça aussi, ça peut se trouver dans les paniers.
Et comment ça se passe avec l'équipe d'insertion ?
Dans le fond, c'est des personnes qui viennent pour travailler, qui sont plus ou moins éloignées de l'emploi, qui ont plus ou moins d'expérience déjà derrière elles en milieu professionnel, et dont le projet est plus ou moins construit. Nous, on va les accompagner sur leur projet. Donc il peut être très varié. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'apprendre plus le français, d'autres qui vont avoir besoin de juste stabiliser leur situation administrative ou économique ou psychologique ou enfin, personnelle finalement. Mais dans tous les cas, ils ont besoin d'être dans une forme d'insertion par le travail. Et là, nous, ce qu'on apporte, c'est ça finalement, c'est d'avoir une stabilité par le travail qui permet généralement de stabiliser le reste de la vie, d'avoir un revenu un petit peu stable et un accompagnement pour débloquer toutes les petites choses qui peuvent se mettre sur notre route pour arriver à notre projet, quel qu'il soit.
La campagne de financement de Terre 2000 Pas est en pleine récolte, donc si vous voulez y mettre votre grain de sel, direction leur site web.
Merci Charlélie. On apprend que Sébastien Bouillet a demandé le placement en sauvegarde de son entreprise. Le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de cette procédure le 8 janvier. Objectif, étaler la dette et pouvoir mieux repartir sur des bases solides. Le pâtissier et chocolatier lyonnais avait repris en 2000 l'entreprise de son père à la Croix-Rousse. Elle compte aujourd'hui 14 points de vente et emploie quelques 140 personnes pour un chiffre d'affaires qui dépassait les 9 millions d'euros en 2023, en progression par rapport à 2022. Bouillet a notamment multiplié les investissements ces dernières années en ouvrant en fin 2022 un nouveau laboratoire de 800 m² entièrement dédié au chocolat à Miribel. Un dernier mot de sport en basket. L'ASVEL défie le Partizan en Euroleague, toujours privé de 3 joueurs, l'Auvergne, Hendaye et Kaoudi. L'équipe villeurbanaise retrouve le prestigieux club de Belgrade ce soir à 20h. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition.